Je suis féministe sur Radio B. Je suis féministe. En 2021, on continue de l'affirmer et de rencontrer ces femmes qui s'investissent dans la lutte pour les droits des femmes. L'invité du jour ne devrait pas avoir de mal à le crier haut et fort. Je suis féministe. Marie-Rose Maupoint, bonjour.
Bonjour.
Marie-Rose, c'est facile pour vous de dire « je suis féministe » ?
Oui, ça va de soi.
Il n'y a jamais eu des moments où vous vous êtes sentie mal à l'aise de le dire ?
Non, pas du tout, mais comment dire, ma lutte féministe, elle s'associe aussi à une lutte politique. Donc en fait, le problème des femmes dans le domaine politique, c'est quelque chose d'essentiel, alors que pendant longtemps, ça a été gommé. Donc aucun problème. Et syndical, bien sûr, hein, aussi. Voilà.
Et justement, pour vous, ce serait quoi le féminisme ? Comment vous pourriez le définir ?
Alors, pour moi, le féminisme, ce serait arriver quand même un jour à ce que les femmes prennent leur place de manière entière dans la société. Parce que quelque chose qui m'a frappée, j'ai relu un peu des dates concernant certaines lois, etc. Bon, à l'exception des lois sur l'IVG et sur la contraception, où dans les années 70, ça a été une lutte très massive, et tout le reste, on s'aperçoit que tout au long, pendant des années, on retrouve des projets de loi sur l'égalité homme-femme au travail. Et puis, on passe à autre chose. Et puis, 5 ans plus tard, c'est la même chose, on retrouve les mêmes lois, comme si rien n'avait existé avant. Donc en réalité, je pense que là, il y a un gros travail à faire.
Le féminisme, une espèce de lutte perpétuelle, en fait.
Oui, complètement.
Et à quand remonterez-vous vos souvenirs de questionnements autour de votre genre, autour du fait d'être une femme, une fille, une jeune fille ? Est-ce que vous vous êtes posé ces questions à un moment donné, tout début de votre vie ?
Non, pas tellement, parce que... Enfin, alors, je me trompe peut-être ou je rêve. Hein. Je ne l'ai jamais ressenti, au moins dans mon travail. Il faut dire que j'étais enseignante et que dans le domaine de l'enseignement, c'est un problème qui ne se posait pas, dans la mesure où effectivement... Bon, bien sûr, il y avait une majorité de femmes déjà, où effectivement, par exemple, au niveau des salaires, les salaires hommes-femmes, c'était vraiment équivalent. Il n'y avait pas de problème. Et puis, au niveau aussi conduite de classe, au niveau professionnel, c'est vrai que je me suis jamais sentie, comment dire, amoindrie, affaiblie, discriminée en tant que femme. C'est mon expérience, hein. Mais je pense en revanche que dans certains métiers, je me souviens d'un congrès syndical où une femme qui effectivement travaillait à l'envoi des colis, qui était vraiment un travail très très de force et quelque part méprisée par les hommes. Elle en bavait énormément.
Et en dehors de la sphère du travail, vous avez été adolescente dans les années 60. On présente souvent cette période comme le début de la libération des femmes. On a souvent le modèle de la mini-jupe en tête.
Oui.
Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs ? Comment vous avez vécu ce moment-là ?
Écoutez, moi, je ne sais pas, on était en fac. J'étais étudiante, donc. Hein, c'était un monde aussi un peu particulier. Mais... j'ai réfléchi à quelque chose. J'ai réfléchi au fait que, en 68, je me suis dit, mais en 68, quels ont été les combats concernant les femmes ? J'étais à la faculté de Lyon, hein, et je n'ai pas souvenir de combats véritablement portant sur le féminisme à cette époque.
Pourtant, on abordait la sexualité à ce moment-là.
Oui, exactement. Mais c'est vrai, c'est des choses dont on discutait. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu, disons, des luttes comme il y a eu après, en 70, des luttes pour l'IVG, pour la contraception. Alors peut-être que je suis passée à côté, j'en sais rien, hein. Mais ce n'est pas un souvenir qui m'a marquée.
Et en 73, c'est le début du MLAC, le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception.
Oui.
À ce moment-là, vous êtes professeur de français,
oui,
à Rouen. Vous,
oui,
avez rejoint le mouvement.
Dans l'Académie de Rouen, oui. Il y avait eu auparavant la naissance du MLF.
Donc le mouvement
avant.
De libération,
oui,
des femmes.
Oui, c'est ça, je crois que c'était en 70, voilà. Il y a eu aussi, c'est l'époque où il y a eu un tas d'associations, il y a eu aussi l'association Choisir de Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir. Et par rapport à ce combat pour la libération de l'avortement, la contraception c'était déjà un peu acquis, hein, mais de l'avortement, Gisèle Halimi a fait un travail énorme, avec en particulier son procès de Bobigny. Ça a été une marche très forte par rapport à cette loi qui a été prise plus tard. Voilà.
Et qu'est-ce qui vous dit « je rejoins ces mouvements, je m'investis » Comment vous vous êtes dit « il faut que j'y aille »
Alors, le MLAC, par exemple, contrairement par exemple au MLF, mais ça n'avait pas, c'était pas du tout la même chose, hein, puisque le MLAC était centré sur un problème précis.
Vraiment, l'avortement, voilà, la contraception.
Voilà, c'est ça. Et le MLAC était constitué de mouvements féministes, mais aussi de partis politiques, ce qui n'existait pas au MLF. Si bien qu'on retrouvait dans nos rangs également des hommes engagés politiquement. Alors, ils n'étaient pas les masses, mais voilà. Or, moi, à l'époque, j'étais dans un parti qui a disparu maintenant. J'étais une militante politique, déjà, puis syndicale. Et donc, c'est un peu par ce biais-là. Pour moi, c'était une lutte comme les autres, et une lutte importante, un peu oubliée dans les combats des partis et des syndicats.
Donc, à l'époque, vous étiez à Rouen.
À l'Académie de Rouen, oui, c'était Vernon,
Rouen,
enfin, oui, c'est pareil. Hein.
Voilà. Qu'est-ce qui se passait au sein du MLAC de ce côté-là? La Normandie, c'est pas très loin de l'Angleterre.
Oui.
Qu'est-ce qui s'organisait?
Alors, il y a une chose quand même qui était importante, c'est qu'on a aussi oublié qu'il y avait eu en 60 la création du planning des plannings familiaux. Et le planning familial de Rouen était vraiment très investi dans cette lutte pour l'avortement, pour la contraception bien sûr, parce que ce n'était pas évident non plus la contraception. Et le MLAC travaillait étroitement avec le planning familial qui lui, alors le planning familial, organisait des départs vers l'Angleterre. Donc en fonction des problèmes qu'on rencontrait sur le terrain, on allait voir avec les femmes, le gros problème c'était l'argent. Parce que ce n'était pas évident, donc on faisait des collectes, enfin on s'arrangeait comme on pouvait.
Donc des départs vers l'Angleterre, pourquoi ?
Parce qu'en France, il y avait...
Pour accompagner les femmes ?
Pour accompagner les femmes.
Pour avorter.
Voilà, c'est ça. Ah oui, c'était des départs, puisque c'était un des rares pays où l'avortement était pratiqué sans problème. Il me semble qu'il y avait aussi un peu, il me semble, la Belgique ou les Pays-Bas. Il me semble aussi. Mais j'en ai un souvenir plus vague.
En 1974, vous arrivez à Bourg-en-Bresse.
Oui.
Le MLAC existe aussi sur place.
Oui, oui.
Quelles actions avez-vous mis en place ici à Bourg-en-Bresse? Qu'est-ce qui vous a marqué?
Alors, le MLAC existe. Il y avait un petit groupe très actif, effectivement. Alors, les actions ont été souvent assez dures parce que on avait trois gynéco-obstétriciens qui étaient implantés à la fois dans la clinique privée et à l'hôpital. Et qui était d'une opposée, mais fondamentalement, à tout ce qui était IVG. Ils étaient même opposés à la moindre discussion là-dessus. On a eu, dès le départ, un combat assez frontal avec eux. Alors bon, on a même fait des... Alors là, on a fait des actions un peu coup de poing.
Racontez-nous.
Alors je me souviens d'une... Entre autres, parce qu'il y en a eu plusieurs, mais d'une manif qui s'est dirigée vers la maternité. Les gendarmes, il n'y en avait point. On n'était pas empêchés, rien du tout. On a investi le hall de la maternité. Il y avait, ce qui est un peu gênant, c'est qu'il y avait les femmes qui venaient d'accoucher, qui nous regardaient. On a investi et là, on a demandé, on a revendiqué, on a demandé à voir les médecins pour parler de l'IVG. Bon, bien sûr, on ne les a pas vus. Mais ça, ça avait été une action un peu coup de poing à l'époque. Et puis, une autre action, entre autres, qu'on a faite aussi toujours avec ces médecins, on ne pouvait avoir aucun rendez-vous. Et un bon jour, on s'est dit, on n'a pas de rendez-vous, on va y aller sans rendez-vous. Et alors là aussi, on n'était pas nombreuses, on était quatre. On a investi le bureau de la maternité et on a rencontré le médecin obstétricien qui était de garde ce jour-là. Il était là. Il a eu très peur. À l'évidence, je pense qu'il... il aurait préféré être à 100 km d'ici. Il a appelé en renfort l'interne et on a quand même pu avoir une discussion. Mais il était très mal à l'aise. Donc, on ne pouvait arriver qu'à des actions un peu coup de poing comme ça pour faire avancer les choses. Enfin, avancer, pour poser au moins les problèmes.
Et c'était quoi l'ambiance à l'époque? Comment le reste des citoyens vivaient ces actions?
Mais moi, je n'ai pas eu l'impression d'une... Enfin, je n'ai pas vécu ça comme une... Je n'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu des obstructions très fortes. Si le seul souvenir que j'ai, c'est en classe, J'étais au Collège du Vermont à l'époque, oui. Après l'Académie de Rouen, j'étais au Collège du Vermont. Et bon, on avait comme collègue quelqu'un qui était carrément opposé, qui nous provoquait. Et il s'amusait à découper des petits articles, alors vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelait l'œuf du jour, d'un journaliste, son nom, d'un journaliste du Progrès. Alors il faisait un tout petit article sur un point particulier. Et l'œuf du jour, dans l'œuf du jour, on avait souvent une bonne place. Alors il les découpait, il les affichait au tableau, et il marquait en gros « Les pétroleuses sont dans la salle ». Je me rappelle de ça.
Et avec les élèves, est-ce que votre combat féministe, vous avez un peu pu le disséminer au travers des cours que vous donniez, au travers de vos enseignements? Vous étiez prof de français.
Oui. Alors, les élèves étaient au courant. Les élèves savaient. Donc, on arrivait à discuter de certains points. Plus tard, moi, j'essayais de mettre en place des débats quand, par exemple, j'entendais dans la classe des remarques désobligeantes envers des filles. Les garçons, ça leur arrivait d'envoyer n'importe quoi à la figure des filles. Et là, bon, je disais, allez, on va faire un débat là-dessus. Vous allez faire une recherche et on va... C'est... Le cours de français, c'est la possibilité de faire tout, finalement. Même sur les problèmes, même politiques, même... voilà. Tout dépend comment on le mène, bien sûr. Il ne s'agit pas d'imposer nos idées, mais d'essayer de faire s'exprimer ce que les élèves ressentaient.
Au fur et à mesure de vos années passées dans l'enseignement, mais aussi en tant que militante, comment vous l'avez vu évoluer, le mouvement féministe ?
Alors, par rapport au combat des années 70, en particulier sur l'IVG et la contraception, on a l'impression d'avoir acquis quelque chose d'important qui semble définitif. Je pense qu'il faut être sur ses gardes, parce que ça peut être mis en cause. Donc, mais il y a quand même eu des avancées. Mais autrement, eh bien, on le voit hein, dans les actions actuelles avec Putain de guerrière, avec, bon, finalement, les problèmes se reposent et le combat continue. On n'a pas l'impression, moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu une avancée tellement affirmée et foudroyante qui fasse vraiment une coupure avec le passé, parce que il y a des petites choses qui ont été mises en place, mais on a presque l'impression qu'il faut constamment recommencer les mêmes choses, les mêmes combats. Et même par rapport aux lois, moi j'ai regardé quelques dates sur les lois concernant l'égalité au travail, mais il y a eu des lois, par exemple en 80, les mêmes lois sur l'égalité au travail. On retrouve encore un projet de loi 5 ans plus tard, et puis 3 ans plus tard, ça recommence. C'est-à-dire qu'on remet le couvert constamment, comme si rien n'était fait sur le terrain.
Et aujourd'hui, selon vous, ce serait quoi vos combats en tant que féministe? Sur quoi est-ce qu'il faudrait aller? Sur quel terrain il faudrait mettre l'accent?
Bon, moi je pense qu'il y a... les syndicats et les femmes qui sont dans les syndicats pourraient en parler, celles qui vraiment militent fort, pourraient en parler largement, tout ce qui concerne le travail. Je pense que là, il y aurait du boulot. Et puis, eh bien, il est ressorti, et ça, c'est intéressant quand même, parce que c'est en regardant un petit peu ce qui se passait aujourd'hui, je me suis dit, et j'ai été regarder dans le passé, je me suis dit, mais tout ce qui concerne le viol, les violences faites aux femmes, ça n'apparaissait pas dans nos combats. C'est vrai, quand j'y pense, c'est pas quelque chose qui... Alors si, de temps en temps, on a une petite référence, mais ça n'a pas été un combat prioritaire. Et moi, je pense qu'actuellement, il semblerait, je pense que les femmes le ressentent bien.
Hein. Avec le MeToo,
c'est ça. Et que ça, c'est un combat qu'il faut mener. Ça, c'est sûr.
Marie-Rose Maupoint, merci.
Merci à vous de m'avoir invitée.
L'affaire Galatée nous tend le miroir de nos malaises. Ce n'est pas ce à quoi on nous oblige qui nous détruit, mais ce à quoi nous consentons qui nous ébrèche. Ces hontes minuscules de consentir à renforcer ce qu'on dénonce. J'achète des objets dont je n'ignore pas qu'ils sont fabriqués par des esclaves. Je me rends en vacances dans une dictature aux belles plages ensoleillées. Je vais à l'anniversaire d'un harceleur qui me produit. Nous sommes traversés de ces hontes, un tourbillon qui, peu à peu, nous creuse et nous vide. N'avoir rien dit, rien fait. avoir dit oui parce qu'on ne savait pas dire non.
My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs.
Un extrait de Chaviré de Lola Lafont ou l'histoire de Cléo, adolescente, qui tombe sous la coupe d'une mystérieuse fondation piège dans laquelle elle entraînera de nombreuses autres jeunes filles. C'est la fin de notre émission. Rendez-vous le mois prochain.